Bien le bonsoir tout le monde, un excellent lundi, un bon début de semaine. Bienvenue aux amateurs de sport, les gens qui actuellement vaquent à essayer de défendre leur maison, leur territoire ou qui donnent, fournissent leur aide. On vous salue, on est avec vous. Vous le savez qu'à tout bout de champ, il y aura des interventions si nécessaire, même dans l'émission de sport, certainement à travers nos bulletins de nouvelles, comme ça a été le cas toute la fin de semaine. D'ailleurs, bravo à toutes les équipes qui ont été en onde en fin de semaine, mais surtout bravo à tous ceux qui fournissent de leur aide bénévolement et tout simplement par l'appel du fait de l'amitié, d'aller aider des gens qui sont dans le trouble en ce moment. Alors, on va tenter de vous divertir un peu au cours des deux prochaines heures. C'est toujours ça que c'est à ça que je reviens. Le sport, ben c'est parfois une belle évasion qui coûte pas cher, surtout quand on l'a via la radio, tout à fait gratuitement. Alors, ce soir, on va revenir, bien sûr, sur la belle victoire de l'Impact de Montréal hier, qui, mine de rien, sans tambour ni trompette, et occupe le premier rang dans l'Est avec des honneurs individuels qui rejaillissent sur certains joueurs, dont Evan Bush, qui est joueur de la semaine. Donc, ça, c'est très, très positif. On aura deux occasions d'en parler ce soir avec Jérémy Filosa et avec Vincent Destouches dans quelques instants. Et je le regardais tout à l'heure, j'ai fait le saut, j'ai juste monté les yeux un petit peu, puis c'est Derek Aucoin qui était derrière la console, mais là, Maxime Paquette est bel et bien de retour. Mais Derek est déjà en place et prêt à vous divertir ce soir à 20h30 à Bonsoir les sportifs, mais viendra nous parler de baseball également ce soir à l'émission. Un week-end parfait pour les Blue Jays de Toronto, et il y a plus que ça également dans l'ensemble du baseball majeur. Un rendez-vous à ne pas manquer. Les séries dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec se poursuivent. Il en sera question avec Stéphane Leroux. On est rendu en finale. André Tourigny, dont l'équipe a une fiche parfaite, les 67 d'Ottawa dans la Ligue junior de l'Ontario, va nous parler de Nick Suzuki, qu'il observe de près comme peut-être éventuel adversaire en finale, et aussi de son équipe dans la Ligue de l'Ontario, qui fait vraiment des ravages. Tout un travail d'André et son équipe d'entraîneurs. Philippe Quentin est là également, et Mathieu Betts, un autre Québécois qui voit les portes de la NFL s'ouvrir à lui avec la signature d'un contrat en fin de semaine avec les Bears de Chicago. Mais dans un premier temps, accueillons Danny Dubé. Salut Danny.
Salut Mario.
Un seul match à l'horaire ce soir, ouais. Une série où c'est l'égalité 1-1. Les Blues de Saint-Louis qui s'en vont à Dallas, qui affrontaient les Stars. Comment t'entrevois ce seul match-là à l'horaire ce soir?
Je pense que les Stars ont vraiment impressionné à partir de la troisième période du match 1. Ils ont joué un très fort deuxième match pour se sauver avec la victoire. Mais honnêtement, je regarde la fiche des Blues depuis le début des séries. À l'étranger, ils ont une fiche parfaite. Ils ont gagné leurs trois matchs lors de la première série contre Winnipeg. Je pense que ça, c'est avant-coureur d'un certain succès. Je pense que ça favorise cette équipe-là. C'est une équipe qui aime le jeu serré, qui aime pas trop ouvrir le jeu. Je pense qu'elle n'est pas à l'aise à ouvrir le jeu. Donc, l'avantage de la glace, est-ce que c'est vraiment un élément majeur? Peut-être dans certains cas, mais plus pour les Bruins de Boston, mais dans le cas des Blues de Saint-Louis, ça ne l'est pas. Pourquoi je dis les Bruins? Ben juste pour dire que c'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale à domicile avec Tampa Bay. Donc,
mais Dallas aussi est très efficace défensivement, puis on n'a pas beaucoup parlé de l'individu du gardien Ben Bishop depuis le début des séries, mais puis sans remettre en question le travail de Vasilevski, là, loin de moi cette intention, mais il reste que Bishop, c'est un fichu de bon gardien que Tampa Bay a été contraint de laisser partir.
Oui.
Et il aide les Stars de Dallas.
Ah ben oui, c'est un gros gardien de but. Oui. C'est pas le gardien de but. Quand tu parles aux anciens gardiens de la Ligue nationale ou aux entraîneurs de gardiens, il n'y a personne qui est en amour avec lui ou qui l'admire, parce que c'est pas un gars qui techniquement est très nécessairement très fort. C'est un gars, c'est un format géant et c'est un bagarreur. C'est surtout un compétiteur aguerri. C'est un gars qui a beaucoup de caractère. Il a eu une contre-performance au match numéro 1. Il a rebondi au match numéro 2. Je pense que ça va être une longue série entre ces deux équipes-là. Ça va être difficile de le battre. Je pense que pour le battre, il faut vraiment amener les rondelles tout près de lui. Lorsque c'est près de ses patins, c'est là où il est pas très habile à cause de son gabarit, de sa grandeur, de son jeu de pied, de son agressivité. C'est pas un gars qui est très agressif autour de son filet pour s'approprier cette zone-là. Donc, moi, je pense que Saint-Louis a avantage à ça, mais c'est pas le seul élément là, qui va leur permettre d'avoir du succès dans cette série-là.
Il y a une chose qui est claire, c'est que ce sera difficile de créer des surprises plus étonnantes en deuxième ronde qu'elles ne l'ont été en première ronde. Pour toi, en deuxième ronde, quelle est l'histoire? Quelle est l'équipe avec la plus belle histoire en ce moment?
Caroline, ça demeure. Ça demeure l'équipe Cendrillon pour moi. Autant le Colorado l'est dans l'Ouest, autant la Caroline l'est dans l'Est. C'est deux équipes que moi, en tout cas, qui étaient sous le radar, que je voyais pas en série. Je voyais une progression, mais pas au point de les voir en série. Et dans les deux cas, c'est deux équipes qui font très, très bien.
Et dans le cas des Hurricanes de la Caroline, un gars dont on a peu parlé près de la date limite des transactions parce qu'il n'arrivait pas via transaction, mais il revenait de la liste des blessés, c'est Jordan Staal.
Ah oui, quand Staal est revenu dans l'alignement, tu as raison de le mentionner, tout de suite, oups, ça a basculé. Là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là, mais la ligne de centre, c'est super important. Si tu perds un joueur-là, c'est dans le pétrin, c'est sûr. En même temps, eux, tu sais, des fois, là... Des fois, là, t'es plus chanceux qu'intelligent aussi. Il y a des affaires qui arrivent dans la vie. Et puis moi, j'ai trouvé que l'acquisition de McElhinney, ça a été pour eux quand même une chance parce que, bon, ils étaient très bons au classement. McElhinney, c'est un vétéran, milieu de la trentaine, 36 ans. Joueur autonome à la fin de la saison. Là, il s'amène avec eux pour finir l'année parce que Toronto le laissait aller au ballottage au profit de Sparks. Un autre gardien de but qui, pour eux, parce qu'il est plus jeune, figure mieux dans les perspectives d'avenir de l'organisation. Ils ont leur gardien numéro un, de toute façon, en Anderson. Mais là, écoute, tu vois, Mrazek se blesse. C'est probablement une élongation au niveau de laine au cours du match d'hier. Lui, il saute dans la mêlée, à pied levé, gagne le match pour son équipe. Écoute, c'est toute une histoire. Et cette organisation-là, on dirait que tout le monde joue pour Justin Williams. On dirait que c'est le leader incontesté que tout le monde suit. Puis Brin d'Amour, ben il y a une chimie entre lui et Williams, ça c'est
clairement
sûr. Et ça, cette chimie-là, ben elle se reflète auprès des joueurs, dans le vestiaire, puis dans toute la dynamique qui anime cette formation-là. Ça nous ramène à McElhinney, ça nous ramène aux Bruins de Boston, la jeunesse, mais ça nous ramène aussi à l'alternance, l'utilisation des deux gardiens. Moi, c'est ce qui ressort de des séries actuellement, c'est comment les équipes ont fait des acquisitions stratégiques. Tu prends l'exemple de Colorado. Et Grubauer, là, qui était avec les Capitals de Washington lors de la conquête de la Coupe Stanley, c'est lui qui a commencé les séries.
Les deux premiers matchs.
Puis là, cette année, il joue.
Et il joue très bien.
Et Varlamov est sur le banc.
Oui,
ça a été leur gardien de but numéro un pendant des années. Pas parce que Varlamov n'est pas bon. C'est que là, il y avait un momentum, on y va avec lui. Mais écoute, là, c'est sûr que du jour au lendemain, on a besoin d'un autre gardien de but parce que, bon, il y a quelque chose qui se passe. Varlamov, là, c'est pas un pied de céleri. Moi, je pense que les équipes qui vont avoir du succès dans ces séries-là, c'est les équipes à quatre trios, six défenses puis deux gardiens.
Le sujet est trop intéressant pour pas que je rebondisse avec ça par rapport à la situation du Canadien de Montréal. On le sait que le Canadien, en haut de la liste, acquisition d'un deuxième gardien de but capable de garder les matchs, d'amorcer au moins 25 matchs et d'avoir du succès. Puis je pense pas qu'on doit amorcer. Moi, je trouve que c'est se contenter de peu que de se dire. Je sais que c'est la règle qui domine depuis des années. Un deuxième gardien qui joue pour 500, on est en business avec ça. On peut-tu viser plus haut?
Ben oui, on peut viser plus haut parce que, surtout si c'est une équipe moins forte, c'est une équipe qui est considérée comme dans le milieu du peloton, ce qui est le cas du Canadien, là. On va se dire vraies affaires parce que le 96 points de l'année passée, il n'y a pas de garantie pour personne, là. Pas juste le Canadien, tout le monde. Donc tu te dis, chaque point est important. Ton gardien de but, là, c'est presque un joueur d'avantage numérique, là.
Oui.
Tu sais, t'as un gars qui te donne des victoires, là. Si ton gardien de but de réserve te joue 25 matchs, puis t'en gagnes 15. Écoute, c'est complètement différent.
Ça vaut
différent.
Un investissement considérable.
Et j'invite les gens à aller voir là sur les différents sites ou même sur celui de la Ligue nationale. Vous allez en voir des gardiens de but qui ont divisé le travail cette année. Puis McElhinney, ça a été un contributeur important au succès de la Caroline. Là.
Investissement, rendement, McElhinney et Mrazek, écoute, ça vaut de l'or pour les Hurricanes de la Caroline.
Absolument. Est-ce qu'ils vont vouloir les garder les deux ou est-ce qu'ils seront capables de les garder tous les deux? Je ne sais pas. Mais McElhinney, c'est le gars parfait pour le Canadien de Montréal.
C'est ça le problème, c'est que c'est rare, ça dure longtemps, ces ménages-là. Parce que quand un gars élève son niveau de jeu à un point où tu dis est-ce qu'il peut être un numéro un, ben là il y a une autre équipe, tu vas t'en servir comme monnaie d'échange.
Ben oui,
des équipes.
Mais regarde la situation avec les Islanders, on donne une chance à Robin Lehner. Quelle histoire extraordinaire. Puis c'est lui qui entreprend les séries, puis écoute, fait un travail remarquable. Puis ça enlève rien à Thomas Greiss qui est un très bon gardien, mais la réalité c'est celle-là, hein, Mario. Donc maintenant là, je regarde les équipes, la façon dont ils sont bâtis. C'est bien d'avoir des marqueurs et tout ça, mais regarde les premiers marqueurs de la Ligue, il n'y en a presque plus qui jouent, là. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, oui, si t'as la chance d'en repêcher un, c'est une chose, mais d'aller en chercher un, c'est une autre affaire. Et là, tout le monde va jeter son dévolu sur un gars comme Matt Duchene, tu sais, qui a des séries extraordinaires. Mais il faut pas oublier dans quel environnement il est. Parce que Matt Duchene, là, actuellement, il est derrière Pierre-Luc Dubois.
ça en dit long sur la confiance de Tortorella envers Pierre-Luc Dubois.
Hein, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il
c'est son homme, hein?
C'est son homme parce qu'il joue de la façon dont il veut que son équipe joue.
Oui.
Le prolongement du discours de Tortorella, c'est pas Matt Duchesne.
Non.
C'est Pierre-Luc. Puis ça, c'est super important de le, je pense, de le percevoir parce que c'est clair que c'est une réalité, là. Cette réalité-là, elle est de plus en plus vraie, c'est que ton premier joueur de centre, il faut qu'il soit impeccable. Après que ton deuxième ait quelques lacunes, mm-hmm. comme dans le cas de Matt Duchesne, tant qu'il t'amène de l'offensive, de l'avantage numérique, des gros buts, etc., je pense que c'est important. Ultimement, l'ardeur au travail, ça se mesure quand? Ça se mesure en série. Tu peux être un bon joueur d'avantage numérique, mais si tu n'as pas l'ardeur au travail, en série, tu ne produiras pas. Et là, Matt Duchesne m'a vraiment monté son jeu d'un cran, comme Eberle. Il y a un paquet de joueurs comme ça, Mario, pour moi, qui sont des surprises depuis le début du camp, des présentes séries. Et c'est ce qui rend les séries de cette année encore plus fascinantes.
Eberle, au point de dire le Canadien devrait jeter un œil?
Non, parce que le Canadien, je pense, actuellement, a vraiment à bâtir sa défense. Tu sais, honnêtement, là, je regarde, là. Et là, il y a Paling qui s'amène, il y a Kotkaniemi. Donc, la ligne de centre, il y a de la jeunesse. On peut encore faire un bout de chemin avec Domi dans le centre. Philippe Dano est un joueur irréprochable dans la ligne de centre. Moi, je pense pour une autre année, je pense que le Canadien peut faire avec ça dans la ligne de centre, avec les joueurs qu'ils ont sous la main. Mais à la défense, ça, c'est nettement insuffisant. Quand je vois ce qui se passe à la série actuellement, les équipes qui étaient moins bien nanties à la défense, elles sont toutes éliminées. Les équipes qu'il y a là, tu regardes les défensives, écoute, c'est
mais
mieux.
Mais c'est pas
que
des défensives de joueurs étoiles, là, Danny.
Non,
là,
non.
C'est parce qu'on découvre que tout d'un coup, ils sont mieux.
Ça nous ramène, c'est la même chose en avant. C'est 4 trios, 6 défenses. C'est ce qui ressort le plus. C'est jamais une règle parfaite. Là,
non.
Tu regardes l'ensemble de l'œuvre, tu regardes la Caroline, tu regardes les Islanders, tu regardes les Blues de Saint-Louis, c'est 6 défenseurs. Et eux, d'ailleurs, c'est un enjeu majeur dans cette série-là, qu'ils soient meilleurs que la profondeur là, de leur alignement, donc la contribution en périphérie soit plus significative, parce que là, ils jouent contre une équipe qui n'est pas en panne offensive, ce qui avait été le cas des Jets de Winnipeg. Alors, on verra bien, mais écoute, moi, j'ai bien hâte de voir ce match-là ce soir pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, parce que là, c'est Berube n'a pas le dernier changement. Alors, c'est beau d'avoir O'Reilly, là, mais O'Reilly, là, il pourra pas le mettre dans les pattes de Séguin comme il veut. Alors, ça va y prendre vraiment de la contribution très, très solide de la part de son troisième, quatrième trio.
Ça n'a pas été un gros problème contre Winnipeg, en tout cas, de gagner des matchs sur la route.
Mais non, ça a été magique. Écoute,
j'ai hâte de voir s'ils pourront transposer ces succès-là à Dallas. On se promène là comme ça d'une série à l'autre à travers les joueurs qui retiennent l'attention. Parmi les acquisitions, tu as parlé de Duchesne, les acquisitions de la date limite des transactions. Charlie Cole fait tout un boulot avec les Blondes de Boston. 5 buts, mais au-delà de ses buts, protection de rondelles, gros travail dans les coins, une grosse présence physique.
Tu sais, les Bruins de Boston, là, Mario, c'est une équipe qui avait de la difficulté à gagner à l'étranger durant la saison. Quand tu ne gagnes pas à l'étranger, surtout dans le dernier droit, tu ne gagnes pas plus souvent. Si tu n'es pas capable d'atteindre les 21 victoires là, autour d'eux à l'étranger, là, c'est un signe. Tu sais, tu veux être en haut de 20, c'est le plus possible de t'approcher 22, 23 victoires à l'étranger. Ça rend les entraîneurs assez confortables avec leur situation. C'était pas le cas des Bruins de Boston. Par contre, ils ont 29 victoires à domicile. Et je pense que dans le cas de Coyle, son acquisition, ça a été cette situation-là. Ça a été de se dire, hey, on a besoin d'être meilleur dans le centre sur notre troisième trio, d'avoir de l'expérience, d'avoir du gabarit. Qu'est-ce qui joue pas du gros hockey à droite? Si on est capable d'avoir un gars qui peut jouer les deux positions, ça va nous donner de la latitude. Écoute, Coyle, ça s'avère une acquisition de premier plan. Puis, je termine en disant, je regarde jouer McKinnon, puis je trouve qu'il donne raison à Patrick Roy. Je dis, tu sais, à l'époque de Seth Jones, il y avait tout ce débat entre les deux.
Roy ne les a pas laissés les mains vides en conclusion d'année.
Non,
hein?
Absolument pas. En tout cas, il a mis son pied à terre, comme dit l'expression, pour faire l'acquisition de McKinnon. Et McKinnon s'avère le grand leader de cette formation aujourd'hui.
Tu prendrais qui aujourd'hui, McKinnon
encore,
ou Seth Jones?
Encore,
c'est trop facile,
encore,
McKinnon.
Encore, ouais. Encore. Parce que les buts sont tellement précieux, Mario. Écoute,
et Jones, c'est pas un piment, là.
Non,
tout un
non,
joueur
c'est un super
là.
Joueur, puis peut-être un jour un trophée Norris, mais en conclusion, les buts sont chèrement payés et sont difficiles à aller chercher. Toutes les équipes qui sont capables de mettre la main sur un joueur de cette envergure-là, tu peux pas le passer.
Merci, Danny. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Mario.
Bye.
Bye.
Dans un instant, après la pause, l'Impact au menu. Il me semble que ça se dit bien, l'Impact occupe le premier rang dans l'Est, hein? On en discute avec Vincent Destouches.